puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bienvenue dans La Puce à l'oreille, avec aujourd'hui des machines et des hommes sur la scène du métaphone. Il s'agit de deux groupes de musique électronique que j'ai pu rencontrer, Chapelier Fou et Stiennis. Commençons par retrouver le régional de l'étape, le groupe Stiennis. Sur scène, il noue un dialogue entre son et lumière pour dévoiler une série de tableaux musicaux et visuels. Originaire de Calais, aujourd'hui lillois, Maxime Duhamel et Raphaël Foulon font partie du projet Stiennis. Je les ai rencontrés avant leur live sur la scène du Métaphone au 99 bis, ancien site minier de Wany, entre Douai et Lens.
Alors je m'appelle Maxime Duhamel, je suis musicien, je porte le projet Stiennis. C'est un projet electronica ambiante qui a été créé fin 2015 et que je développe depuis ces 2-3 dernières années, et notamment depuis 2 ans avec Raphaël Foulon pour la partie live qui vient rajouter toute la dimension visuelle au-dessus du concert.
Donc moi c'est Raphaël, et donc je suis artiste visuel et scénographe pour le projet Stiennis, et donc je fais des projections vidéo en live sur un sanctuaire de pierre blanche et de fumée.
Vous venez de quel endroit de la région ? Parce qu'ici, là, on est dans le bassin minier, le 99 bis, ancien site minier à Wany. Et vous, vous venez de quel endroit ?
Alors, on est tous les deux calaisiens d'origine. On s'est connus en terminale, en fait, en terminale S, quand on faisait au lycée. Et après, on a fait nos chemins, chacun de notre côté. Et on s'est retrouvés à une braderie de Lille. C'est toujours un bon prétexte, la braderie de Lille, pour recroiser des gens. Il y a 4 ans maintenant, je crois, 4 ans ou 5 ans. Maintenant, moi, je suis sur Lille. Et je viens souvent au 99 bis par rapport à... Je suis venu en premier pour tout ce qui était journée d'info, le samedi, avec les rencontres thématiques avec les pros. Et petit à petit, j'ai été accompagné par le 99 bis l'an dernier. Et je continue de venir, notamment pour le collectif 9 Terre aussi, qui a été un petit peu une suite logique impulsée par les groupes accompagnés du 99 bis. Donc je suis souvent dans les murs en ce qui me concerne.
En quelques mots, ça a commencé comment l'envie de ce projet, Stiennis ?
Alors au début c'était juste un projet loisir parce que je suis musicien depuis que je suis tout jeune et après j'ai découvert la MAO en autodidacte pendant mes études, donc ça a démarré comme ça. La passion a pris le dessus et jusqu'à avoir envie de complètement lâcher mon ancien travail pour faire ça à fond. Donc c'est un peu de fil en aiguille en fait, enfin une envie qui finit par déborder et qui finit par se transformer en métier.
Et pour décrire Stiennis, quelles influences, comment on peut décrire le projet ?
Alors du coup, moi j'utilise les termes electronica ambiante. Pour le côté electronica, ça vient rajouter le côté un peu grosse caisse, kick, voilà, qui peut être présent et qui peut donner envie de danser. Mais c'est pas de la musique de clubbing non plus. Du coup, c'est pour ça que je la colle à ambiante aussi, pour le côté ambiance et tableau. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus que de la musique super perchée et super lente tout le temps. Donc voilà, il y a un mélange entre les deux et c'est vraiment une balade de tableau, d'ambiance en ambiance. Voilà, comme dans un rêve, on va dire, plus ou moins positif, plus ou moins désastreux. Voilà.
Et pour toi, ça a commencé comment de faire du visuel pour le projet Stiennis ?
Eh ben, un peu par hasard. En fait, il y a 2 ans, Maxime faisait une date à Montreuil, dans mon coin. Pendant son concert, on a posé un vidéoprojecteur, on s'est amusé avec quelques petits visuels et puis ça collait plutôt bien. Et donc, de fil en aiguille, on a monté... parce que là, on est à notre deuxième spectacle. Donc, deuxième spectacle avec scénographie, jeu de lumière et installation scénique.
Et donc Stiennis, c'est aussi la musique faite par les machines. En live aussi, c'est l'interprétation par les machines.
Oui, oui. On essaye de justement conserver une dimension live sur ce qu'on peut. Alors, on peut jamais tout faire en direct quand on est tout seul. On peut pas gérer toutes les pistes d'un morceau. Mais c'est de se garder un maximum de possibilités d'étirer les morceaux, de rajouter des effets qui vont vraiment avoir un gros impact sur le son. Et avec Raphaël aussi, qui a un peu la même méthodologie côté live ou pour les visuels. On essaye de se donner le plus de latitude possible pour jouer vraiment en live, en fait, et pas avoir quelque chose de tout planifié à l'avance. On sait quels morceaux sont joués dans quel ordre, mais après, on a quand même pas mal de paramètres.
Et quelle inspiration au niveau des sources, disons, des groupes musicaux inspirés pour ce projet ?
Alors, au niveau des groupes que j'aime citer en référence, alors ça ne colle pas forcément pour la musique, mais c'est surtout aussi pour l'état d'esprit qu'il y a autour. Trent Moller, c'est quelqu'un que j'adore. Un producteur danois qui fait des morceaux. Alors, lui qui est venu du clubbing et qui ensuite a écrit plusieurs albums et qui sont à chaque fois des magnifiques tableaux. Enfin, il y a des moments où tu as l'impression d'être sous l'eau. Enfin, c'est magnifique. Et au niveau du son, c'est toujours super bien travaillé. C'est magnifique. Après, il y a John Hopkins aussi que j'aime beaucoup, qui est pour moi super créatif. Et pareil, au niveau de son live, il essaye de rendre ça le plus visuel et intéressant possible avec ses machines. Et je trouve ça intéressant comme démarche. À côté de ça, le dernier, je pourrais dire Max Cooper aussi, qui est un ancien scientifique, un peu comme... Enfin, du coup, on se retrouve un peu tous les deux dans ce profil-là, anciennement biologiste. Du coup, il a pas mal de visuels à base de division moléculaire et tout ça, et c'est de la musique électronica aussi qui est super intéressante, et tu mets un casque, tu fermes les yeux et tu voyages, c'est chouette.
Le visuel pendant le concert, c'est pas seulement appuyer sur un bouton au début, il y a aussi le contrôle par les machines, il y a du visuel fait suivant la musique.
Oui, alors je sais quelle histoire j'ai envie de raconter, mais sinon c'est que du live. Et en fait, on se comporte vraiment comme un groupe de rock avec Maxime. On a nos instruments, il a ses instruments de musique, moi j'ai des instruments qui créent des effets visuels, qui séquencent des films en temps réel. Et du coup, on improvise vraiment à deux pour raconter cette histoire ensemble.
Il y a un dialogue, peut-être, entre le visuel et le sonore ?
Oui, 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 complètement. Ben, on s'embarque tous les deux sur un voyage, parfois plutôt calme, dans la retenue, et d'autres fois beaucoup plus dans la synchronisation et la force des éléments. Donc c'est là qu'on se comporte vraiment de manière synergique, comme des musiciens qui joueraient ensemble dans un vrai band.
Ce qui est chouette, c'est que justement, on sait qu'on a la possibilité de se rater. On a vraiment des endroits où il faut clairement bien se regarder. Et pour que le son parte en même temps que le visuel, il faut vraiment se comprendre. Et ça nous arrive de nous planter. Et moi, ça me fait plaisir. C'est que du coup, on a vraiment réussi à jouer le jeu de se mettre en danger. Et voilà, c'est pas du tout synchronisé. Donc ça, c'est chouette.
Est-ce qu'il faut des lieux spécifiques pour jouer ce projet Stiennis, justement, qui s'adapte bien au son et à l'image ?
Alors, au niveau du son, bon, ça va, parce que c'est pas mal quand même d'avoir un lieu qui soit un peu immersif, où on peut avoir une écoute active. Jouer dans un bar, c'est peut-être un petit peu moins évident. Voilà. Après, au niveau des visuels, on a justement voulu sortir du format écran qu'on avait. On avait travaillé, tout à l'heure, Raphaël a parlé de deux performances. On a d'abord travaillé sur Fulgor Apparatus, où là, on fonctionnait avec un écran classique et avec un sanctuaire, avec des pylônes de LED autour de nous. Donc ça, on l'a joué une quinzaine de fois. On s'est après vite rendu compte que c'était assez problématique et exigeant en termes de salle, parce que dès que t'as pas d'écran, tu peux être embêté. Ou si t'as un petit écran, ça fait un peu télé et c'est pas... Voilà. Et puis aussi la volonté de Raph de sortir de ce côté d'écran classique. On a trop l'habitude de voir l'image sur un écran carré. Bah, tu veux en parler, en fait ou...
Raphaël. En fait, on a monté, on est toujours sur le thème du sanctuaire. Donc, on a monté une espèce de structure qu'on remonte à chaque live et qui s'adapte, en fait, aux lieux dans lesquels on joue. Donc, ça nous donne vraiment une grosse indépendance et aussi la possibilité d'adapter le spectacle en termes de scénographie et d'appréhension de l'espace en fonction du type de concert et de performance qu'on va donner.
Il y a l'inspiration que Raph avait trouvée, et j'avais trouvé ça super comme explication, c'est dans les cultures, les civilisations anciennes, il y avait la construction des temples, les pyramides en fonction de la source lumineuse, le soleil, les astres, etc. Et donc là, l'idée, c'est un peu de faire la même chose, c'est de se dire, on arrive dans une salle, on ne sait pas quelle forme elle va avoir, au niveau, si on est dans une cave, demain on joue dans une cave, et là on joue sur un plateau de smack, donc ça va être complètement différent. Et c'est de se dire, comment on va pouvoir placer nos deux vidéoprojecteurs, donc c'est nos soleils, on va dire, numériques, et on vient placer le sanctuaire, les surfaces sur lesquelles on projette, en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Et ensuite, nous, on s'inscrit là-dedans. Donc, soit on se met derrière le sanctuaire, soit on se met devant. Enfin, voilà, on essaye de jouer avec les formes, justement. C'est ce qui nous amuse de changer un petit peu à chaque concert.
Quel a été le travail? Qu'est-ce que ça permet, le fait de venir au 99 bis finalement pour un groupe?
On avait fait le tour de chauffe l'année d'avant. Là, la différence, c'est le côté, on vient dans une structure par rapport à Tour de Chauffe qui est plutôt un assemblage de structures diverses et qui viennent proposer un accompagnement. Je connaissais les équipes depuis un an auparavant déjà. Il y a la sensation déjà d'être un peu à la maison. Enfin, pour ce qui me concerne, ça fait 2-3 ans maintenant que je gravite autour. Donc on se sent à l'aise avec les équipes, on revoit les mêmes thèmes, on se sent soutenu, les gens s'intéressent au projet, il n'y a pas besoin de le réexpliquer à chaque fois. Et après, avec Maxime Sepanek, donc l'ancien chargé d'accompagnement, il y avait vraiment un gros travail d'identification des besoins, de où est-ce qu'on en est avec le projet et quelles sont les prochaines étapes à faire pour progresser. Et une fois que l'accompagnement a été officialisé, c'était surtout où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller et quels sont les besoins qu'on sent les plus urgents. Pour notre part, c'était sur justement le retravail de cette scénographie qu'on voulait remettre en cause. Sur ce côté écran, pour le son, c'était comment réagencer les morceaux et soigner le son aussi, parce que passer de son studio ou de morceau studio à un travail live qui soit intéressant et propre tout le temps dans toutes les configurations, c'est quand même pas évident. Donc c'est ce qu'on a bossé avec le collectif Alambic, du coup, pour les visuels, et avec Johan Guillon du groupe Ezekiel, que Maxime nous a trouvé. Ça a été 3 jours super. On a vraiment senti une grosse différence à la sortie de ces 3 jours. Une bonne étape franchie. Ouais.
Alors j'imagine que ce n'est pas toujours évident pour un groupe de trouver des lieux aussi où jouer ou interpréter donc, ce projet Stienis. J'ai vu que vous avez rejoint Vahulin justement pour pouvoir, c'est ça, être aidé. Parce que Vahulin, c'est des managers, tourneurs qui permettent d'aider aussi les groupes.
Oui. Bah, en plus, du coup, c'est Maxime Sepanek qui est au sein de Vahulin. Donc c'est un peu une continuité de l'accompagnement, mais dans un autre contexte, on va dire. Il est venu à une sortie de résidence le mois dernier et on s'est mis d'accord que ça pourrait être intéressant de travailler ensemble, justement parce qu'il a cette vision. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans le secteur et qu'il sait bien comment ça fonctionne. Donc pour structurer le projet, c'est difficile quand on est artiste émergent d'être sur tous les fronts, à la fois sur l'artistique pour produire des nouveaux morceaux, pour travailler le live. S'il faut en plus de ça démarcher les pros, c'est un travail qui prend un temps phénoménal. Il faut s'occuper du public aussi et à côté il faut mener d'autres activités pour mener son intermittence à terme. Donc ça fait beaucoup beaucoup de choses pour un seul homme et là clairement je sentais que j'avais besoin d'être épaulé sur le côté... pour développer le projet, pour passer l'étape d'après et que ça prenne une autre envergure, c'était nécessaire de se structurer.
Quel projet pour le groupe ou pour les visuels? Est-ce qu'il y a des idées là en cours, des projets?
Alors on va surtout tourner le nouveau spectacle, se manifester, apparaître ce sanctuaire dans plein de lieux et voir comment il se comporte. On va essayer d'améliorer le processus sur l'année qui vient. c'est de jouer dans un maximum d'endroits éclectiques.
Est-ce qu'il y a projet de sortir un album, avoir un support aussi sonore de studio, par exemple?
Oui, alors il y a un peu le running gag, c'est le premier EP, parce que ça fait 3 ans que j'ai lancé le projet et ça fait 2 ans que j'ai les masters des premiers morceaux et que je me dis je vais les sortir, et en fait à chaque fois je repousse en suivant les conseils d'autres personnes, et finalement c'était une bonne chose d'attendre. Donc le premier EP devait sortir début décembre et finalement il sortira au printemps 2019. Pour le sortir bien comme il faut. Et là, c'est la dernière. En même temps, je dis ça à chaque fois. fois que je le repousse. Mais là, maintenant que j'ai quelqu'un derrière pour structurer la chose professionnellement, on va vraiment pouvoir avancer et être content. Et là, c'est prêt. Donc, le premier EP Dissociation qui sortira en avril, probablement.
Bien, merci pour ces réponses. Hein. Donc, aujourd'hui, avec le groupe Stiennis. Implosion à l'instant du groupe musical et visuel régional Stiennis, qui était en première partie du concert de Albe et de Chapelier Fou le 9 novembre dernier au Métaphone de Wany. J'ai pu d'ailleurs rencontrer Chapelier Fou, qui vient de Metz et qui propose sa musique électronique sur scène depuis plus de 10 ans. Louis commence par expliquer pourquoi il a choisi ce nom de Chapelier Fou.
C'est un nom que j'ai emprunté à Alice au Pays des Merveilles. C'est un nom aussi qui m'est tombé dessus parce que je ne l'ai pas vraiment choisi. C'est quand j'ai commencé à faire de la musique en samplant beaucoup de choses et aussi beaucoup de des enregistrements de contes. J'utilisais vachement des passages d'Alice au Pays des Merveilles et du Chapelier que je découpais, que je montais pour en faire des histoires encore différentes et que j'utilisais beaucoup comme interlude. Puis je distribuais mes disques comme ça à mes copains sur des CD gravés, des CDR à l'époque. J'en ai un chez qui j'ai retrouvé des disques à moi, il marquait Chapelier Fou dessus. Parce que je l'ai donné complètement vierge, sans aucune indication, et puis lui avait marqué Chapelier Fou, je me suis dit tiens, et c'est resté comme ça.
Tu es musicien, issu du conservatoire, et tu as une approche aussi de la MAO, musique assistée par ordinateur. C'est arrivé comment le besoin, ou en tout cas l'envie des machines aussi pour toi dans la musique ?
Ben moi j'ai assez vite joué dans des groupes, notamment dans un groupe avec des copains où on avait des boîtes à rythme, des synthés, mais moi j'étais quand même plutôt au violon, un petit peu dans les machines. À cette époque-là, avec le bassiste, qui est Grégory Wagenheim, qui fait toutes mes pochettes de disques maintenant, on a commencé à faire des morceaux sur Fruity Loops, et puis quand on se voyait le week-end pour répéter avec notre groupe, on s'échangeait les morceaux qu'on avait faits sur disquette, et en même temps on faisait des remixes des morceaux de l'autre qui nous avait filé la semaine d'avant. Et on apprenait comme ça l'un de l'autre de comment on bossait. Et c'est comme ça un peu qu'on s'est mis tous les deux aussi à travailler le sampling. Puis à l'époque, bah, j'écoutais pas mal de musique électronique. Aphex Twin, les trucs de Ninja Tune, Cold Cut, DJ Crush, DJ Food. Enfin, c'est aussi par envie de comprendre la musique que j'écoutais que j'ai commencé à pratiquer des trucs. Donc le sampling pour comprendre tout ce qui était un peu Ninja Tune, les trucs de hip-hop instrumental que j'aimais bien, DJ Shadow, Herbalizer, j'en sais rien moi, Portishead, des groupes qui utilisaient des samples. Puis après, plus tard, je suis venu au rap, quoi, je sais pas, des trucs comme Public Enemy ou Wu-Tang, j'adore vraiment musicalement Wu-Tang. Plus pour comprendre la musique que j'écoutais, que j'ai voulu pratiquer, parce que pour moi, ça a toujours été ça. Pour moi, on comprend mieux en pratiquant. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis mis à faire des samples, c'est comme ça aussi que je me suis mis à faire de la synthèse, par curiosité. Moi finalement, mon moteur musicalement, c'est l'expérimentation et le fait d'apprendre des trucs. Presque, je dirais que je fais de la musique par accident.
Alors là, tu as sorti un quatrième album, Muance. Comment on peut le définir ? Puis ça veut dire quoi déjà, Muance ?
Ben, Muance, c'est un mot qui existe, hein, qui est un mot de musicologue, entre guillemets, qui se réfère à une pratique de solfège, entre guillemets, du Moyen-Âge, vocal. C'est un peu technique, mais une sorte de glissement dans le nom des notes. Et j'aime ce mot aussi pour sa sonorité et puis pour son côté mu et mutation. Ouais, c'était ça qui m'intéressait, c'était le fait de rétrospectivement d'essayer de comprendre quel était mon parcours musical et puis de me dire qu'il n'y avait pas vraiment une ligne toute droite et... qu'il y avait des choses qui évoluaient, des choses que je laissais de côté. Enfin, pour moi, voilà, c'est pas, je vais pas d'un point à un autre en passant par des étapes. Je trouve que c'est beaucoup plus circonvolu que ça. Le parcours que j'ai, il est plus en spirale, quelque chose qui bouge, des fois qui peut retourner en arrière, mais par des chemins qui ont été parfois longs et intenses pour moi. Voilà.
Et ce quatrième album, il a permis des clips aussi, c'est ça, la vidéo notamment.
Bah ouais, on a fait deux clips sur le disque. On a commencé avec le morceau Philémon, qui est le premier morceau du disque. Et j'ai bossé avec Béatrice Lartigue, avec qui j'ai fait pas mal de projets d'installation d'art contemporain notamment. Et c'était bien chouette. Mais j'ai envie de dire que vraiment le chef-d'œuvre, c'est plutôt le clip que Grégory Wagenheim et Jean Chauvelot ont fait sur Artifice. J'en reviens toujours pas en fait de la qualité de ce clip, honnêtement, hein. C'est dingue le boulot qui a été fait dessus. C'est un travail d'animation complètement de titan, qui a été fait avec une technique assez spéciale, parce que Grégory a tout créé en 3D sur l'ordinateur, et a sorti toutes les images, je crois 10 par seconde, quelque chose comme ça, sur papier, il les a imprimées une par une, et ensuite a tout colorié à la main, et redessiné par-dessus. Et ensuite à tout rescanner, c'est vraiment une espèce d'hybride entre des techniques d'ordinateur et des techniques de dessin, quoi.
Et qui sont les musiciens qui t'accompagnent aussi? Vous êtes trois, c'est ça, sur scène avec Chapelier Fou?
Ouais, on est trois sur scène. Donc je suis avec un altiste qui joue des synthétiseurs, il s'appelle Ultra Chaton, et un clarinettiste qui joue aussi des claviers et des pads, qui s'appelle Max. Mais il n'y a pas que eux qui m'accompagnent, il y a aussi une équipe technique, toujours un ingé son, Karim, qui me suit depuis 10 ans maintenant, Chuchu qui fait de la vidéo, enfin la lumière et la vidéo, qui donne vraiment quelque chose de hyper visuel et cohérent au show, parce que c'est vraiment un boulot de groupe. Maxou, qui est clarinettiste, est aussi ferronnier, donc c'est lui qui a drivé tout, qui a fabriqué tout le mobilier, nos tables, nos décors, etc. C'est tout fait à la main. La programmation des lumières, c'est moi qui l'ai faite. La lumière, la vidéo, c'est Chuchu qui la pense. Les LED, on les a soudés tous ensemble. Enfin, c'est vraiment tout fait ensemble. Il n'y a rien qu'on a acheté. Même les programmes qui tournent, c'est des programmes open source ou alors qui ont été codés par un informaticien. C'est beaucoup fait à la main.
Alors là, tu as animé pendant 3 jours un atelier Terry Riley avec le jeu de mots Terril sur Terry, parce que nous sommes dans le bassin minier ici au 99 bis. Et cette idée aussi de faire de la musique en tant que musicien, et notamment avec la MAO, mais aussi de transmettre, c'était quoi l'idée de s'engager dans cet atelier, finalement, Terry Riley?
Ben, c'est venu par hasard, la réalité. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion de venir au Métaphone, je crois, au mois de mai, parce que je bossais dans le cadre de ce qu'ils appellent les accompagnements avec une artiste qui s'appelle Domiti. Donc je me suis trouvé comme ça 3 jours dans la petite maison où je loge, et puis je me suis baladé sur le terril et j'ai eu cette idée, parce que c'est assez lunaire comme paysage en haut, et puis j'ai eu comme ça une espèce de révélation, et ça, en fait, c'est entré en résonance à une espèce de projet que j'avais eu en discutant. Une fois, j'avais joué en Sicile, à Catane, et je me souviens, le mec qui m'accueillait avait envie de faire un projet sur l'Etna avec moi. Ça s'est jamais fait, mais j'ai repensé un peu à ça. J'avais une idée de procession, je me suis dit, tiens, ça serait tellement drôle de jouer du Terry Riley sur le terril. Puis voilà, ça s'est fait comme ça, parce que le lendemain, il y a la personne de l'école avec qui on bossait, qui est venue, qui m'a proposé de faire un projet avec les étudiants. Et je trouvais que c'était cool de faire ça. Pour moi, le jeu de mots justifie l'envie. Et ensuite, ce qu'on fait dans l'atelier, c'était autre chose. D'ailleurs, on n'a pas fait du tout ce que j'avais prévu. Parce que j'avais, moi, comme idée au départ, de jouer Incy de Terry Riley à la fin. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chemin. Et c'est qu'est-ce qu'on évoque, sur quoi on bosse avant. Moi, je voulais bosser notamment sur des trucs de programmation, sur des logiciels. Le fait d'avoir une partition télécommandée par un ordinateur chef d'orchestre qui dirait à tel musicien de jouer tel motif à tel moment. Et c'était intéressant techniquement, moi à faire c'était intéressant, et puis ça pouvait éventuellement donner des idées aux étudiants et aux participants de comment on pouvait utiliser, aussi l'informatique pour faire des trucs de groupe, collectif, mettre les ordinateurs en réseau, etc. Bon, il se trouve qu'on a eu pas mal de soucis techniques et qu'on a abandonné l'idée. Mais tout à l'heure, je me disais, c'est tant mieux que ça ait merdé et qu'on ait abandonné l'idée, parce que je trouve que c'était un contresens musical. C'était cool pédagogiquement d'aborder ça et tout, mais musicalement, vraiment, là, je m'en suis aperçu, parce que j'avais jamais, avant ça, moi, j'avais jamais joué Incy. Hein. Et c'est vraiment une pièce qu'on comprend en la jouant. Elle est très, très chouette à écouter, mais en jouant, vraiment, je me suis aperçu à quel point c'était quelque chose à vivre de l'intérieur. Et c'est vraiment basé sur l'écoute. C'est là que la notion d'écoute, aussi d'écoute intérieure, parce que on doit s'imaginer ce qu'on va jouer par la suite et si ça va bien coller ou pas. L'idée de départ que j'avais eue était un contresens. Il faut absolument avoir le choix personnel de faire ce qu'on fait à tel moment en tant que musicien dans cette pièce-là. C'est vraiment un échange entre le groupe et l'individuel. Il peut pas y avoir un truc qui soit un chef, quoi. Même si c'est un ordinateur, même si c'est de l'aléatoire ou je sais pas quoi. Non, la pièce, elle est cool à vivre parce que justement, on fait des choix.
Quel projet pour la suite, des collaborations peut-être, il y a des idées là de projets?
Ouais, j'ai mis le projet, là, ma tournée se termine, donc là on n'a plus que deux dates, on joue plus que ce soir et la semaine prochaine, je crois. Et donc je fais d'autres choses, je fais des ateliers beaucoup sur Ableton Live, sur MaxMSP, sur la synthèse modulaire. Je fais de la musique pour des pièces de théâtre. Je fais des installations, je bosse sur des installations autour de Beethoven et des pianos mécaniques. J'ai un projet aussi avec trois classes de collège à Verdun, Strasbourg et Nancy autour du karaoké.
C'était Louis de Chapelier Fou et avant vous avez pu entendre Maxime et Raphaël du groupe régional Stienis. Ils étaient en concert le 9 novembre dernier au Métaphone 99 bis à Wany entre Douai et Lens. Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur 9-9bis.com. La puce à l'oreille, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. On continuera à parler de votre région.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.